Chers frères et sœurs, le temps pascal est le temps de la joie par excellence, car vous le savez bien, dans la résurrection de Jésus, on célèbre notre victoire définitive sur la mort. Et ça se fête. Or, curieusement aujourd'hui, l'Église, dans l'Évangile, nous replonge dans le drame. L'évangile que nous avons lu est en effet tiré du chapitre 17e de Saint Jean, qui est dans le prolongement de la Sainte Cène, Sainte Cène au cours de laquelle Jésus entre dans sa passion. Pourquoi donc, alors que nous sommes dans la joie depuis Pâques et même jusqu'à la Pentecôte, l'Église nous replonge-t-elle subitement dans la passion de Jésus ? Très probablement parce que Jésus y rappelle quelque chose d'essentiel à notre vie de foi, quelque chose qui vaut toujours et qu'il nous faut mettre en œuvre dans nos vies sans trop tarder. En y regardant bien, on trouve dans cette longue prière que Jésus adresse à son Père le motif même de sa venue sur terre, le motif même de sa mort. Jésus est venu faire l'unité de tout le genre humain, tout le genre humain dont les membres sont tous potentiellement ses disciples. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Frères et sœurs, en ces jours de joie, l'Église tient à nous rappeler l'intention principale qui anime le Père quand il envoie son Fils en terre, comme pour nous dire « N'oubliez pas que ces jours de joie ne sont pas là pour faire joli, mais pour vous aider à construire l'unité, à vous réconcilier sans tarder avec les autres et avec Dieu. » Et cette unité pour laquelle Jésus est mort et qu'il nous appelle à mettre en œuvre n'est pas n'importe laquelle. Elle est participation à l'unité du Père et du Fils, ni plus ni moins, qu'ils soient un comme nous sommes un. Cet appel de Jésus rejoint d'ailleurs notre désir profond. Nous avons en nous la nostalgie de cette unité, parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu Trinité, et que le péché originel, s'il a fait des dégâts, ne nous en a pas ôté le désir. Ce désir d'unité, on peut le voir, on le retrouve partout dans l'expérience humaine, dans le désir d'un homme et d'une femme de se marier indissolublement pour ne faire plus qu'une seule chair. Dans un autre domaine, dans le processus historique qui a poussé des régions à constituer des nations, lesquelles ont aspiré à une communion plus grande en édifiant l'Europe. Nous le touchons encore dans la structure de notre esprit qui aspire à l'universel, pour communier pleinement à la création et à son Créateur. Pourtant, depuis le péché originel, nous ne sommes plus capables de réaliser cette unité que nous désirons. Il nous faut impérieusement la grâce du Christ pour faire la paix avec Dieu, nos frères, nous-mêmes. Dans l'Évangile, Jésus a cette phrase un peu énigmatique. « Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés par la vérité. » Alors j'ai essayé de réfléchir un petit peu. Dans l'Ancien Testament, consacrer ou sanctifier quelque chose, c'est le mettre à part pour Dieu, l'offrir à Dieu, pour renouer avec Dieu. Et quand cette chose est un animal, dans la liturgie du temple, cela passe souvent par son sacrifice rituel. Sacrifice rituel qui nous remet en communion avec Dieu. Jésus dit donc ici qu'il s'est tout donné au Père et qu'il s'offre à lui en sacrifice pour en obtenir notre réconciliation avec Dieu et les hommes. Et dans un deuxième temps, il demande au Père de nous sanctifier par la vérité, c'est-à-dire, il est la vérité, qu'il nous invite à nous offrir en sacrifice et à insérer notre offrande dans le sien, afin que lui, la vérité, qui obtient tout du Père, afin que par lui, nous obtenions le don de l'unité. Revenons à des choses plus simples. En quoi consiste donc cette offrande de nous-mêmes ? Matériellement, en pas grand-chose. Elle ne demande pas beaucoup de sang, ou rarement. Simplement, en un cœur humble, qui se laisse aimer par le ressuscité et accueille sa grâce. Souvenons-nous du psaume 50. « Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » Faire l'unité coûte donc le sacrifice du cœur. Il n'y a pas d'unité entre époux, pas d'unité entre frères et sœurs, pas d'unité entre frères, pas d'unité entre nations sans sacrifice du cœur. Et l'humilité, donc, est la condition sine qua non pour recevoir du Christ la grâce de l'unité qui unit le Père avec le Fils. Le corollaire est qu'aussi, en dehors du Christ, toute unité personnelle ou politique est forcément infirme. Si le Christ est absent du champ social, alors il manque la force pour faire l'unité du groupe humain, de la cité, du pays. En outre, sans référence à l'attitude du Christ, la paix produite est superficielle. Regardons Jésus dans l'Évangile. Il rencontre les gens et il les amène à un dépassement. Et si Jésus n'est pas là, la paix devient une tolérance dans laquelle je respecte l'autre sans le rencontrer, sans faire sa connaissance. Je le laisse à sa solitude pour la rompre seulement quand il m'importune, avant de repartir me cadenasser dans la mienne une fois le conflit réglé. Bonjour l'unité. Il est difficile de progresser avec lui vers un bien qui nous améliore l'un et l'autre dans une joie partagée. Il est difficile que cette unité se renforce. C'est une paix sans communion, sans progression et sans issue. C'est le Christ qui est notre paix, dit ailleurs saint Paul avec force. Le Christ est le fondement de la paix authentique. Alors soyons simples. La première miséricorde que nous avons à faire au monde est de parler de Jésus, à temps et à contre-temps. Sinon, qui parviendra à la paix de Dieu? Comment le monde pourra la connaître et s'y disposer? Chers frères et sœurs, demandons à la Vierge Marie, que nous invoquerons sous le vocable de Marie qui parle avec force et à bon escient, la grâce de ne pas céder à la tentation du mutisme, de ne pas écouter les sollicitations des démons muets, et quand il le faut, de l'ouvrir.